Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être brisé.
Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. L'impiété, c'est ceux qui ne veulent pas de communion avec Dieu, en vérité. C'est le péché, mais d'une certaine manière, c'est le péché volontaire, les gens qui refusent d'avoir une communion avec Dieu. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur, ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, regardez bien cette expression, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton cœur impénitent et par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Gardez ce texte et nous allons faire notre lecture dans 1 Timothée au chapitre 4, s'il vous plaît, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1er. Mais l'Esprit, dont le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et une dernière lecture, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 4. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Le sujet que nous allons partager ce matin est un sujet que je n'avais pas du tout envie d'aborder, pour la simple et unique raison qu'il me paraissait un petit peu difficile de le faire. Mais je pense, compte tenu de tout ce que je peux parfois vous lire, par rapport à toutes les questions que j'ai pu recevoir, par rapport à toutes les remarques que des personnes mal informées ont pu me faire, je pense que c'est bien d'expliquer certaines choses. Et nous allons le faire avec, je vais essayer de le faire très sérieusement, très simplement en tous les cas. La parole de Dieu dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et l'apôtre Pierre a exhorté les chrétiens, on voit bien que l'Esprit de Dieu veut que les croyants, au fil des siècles, soient continuellement exhortés à fuir le mal, à fuir la débauche, etc., etc. C'est vrai que la Bible dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est vrai que c'est quelque chose de terrible, que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alors si ça allait mal déjà du temps de l'apôtre Paul, nous réalisons au travers de ce que nous voyons aujourd'hui, du peu que nous voyons. Parce que nous, les chrétiens, nous nous préservons du mal. Mais nous sommes quand même parfois informés de certaines choses qui sont vraiment perverses et abominables. Et nous sommes bien sûr choqués, heureusement. Et nous voyons bien que notre génération est en train de basculer dans une espèce de perversité qui est innommable. Et il y a du désespoir partout. Cela, bien sûr, n'amène pas le bonheur. Nous n'avons pas besoin d'un grand esprit de discernement pour réaliser qu'il n'y a pas de bonheur dans cette maladie qui est la perversité. La maladie, justement, frappe un peu partout quand vous voyez qu'il y a des villages entiers en Afrique qui sont décimés par le sida. On n'en parle plus parce que, bon, il y en a marre d'en parler, etc., etc. Ça fatigue les gens, mais il n'empêche que, bien sûr, on casse les choses. Mais quand vous savez que des villages entiers sont décimés par certaines maladies, vous avouerez que ça fait quelque chose, c'est bizarre. Je rapporte deux faits divers que j'ai lus il n'y a pas longtemps dans un ouvrage pour vous dire combien c'est vraiment, vraiment lamentable. Nous, les adultes, peut-être que nous passons au-dessus. Mais nos enfants sont en train d'évoluer dans une société complètement pervertie. Un exemple, un acteur d'Hollywood a laissé sa femme et est allé prendre une belle femme dans un bar. Ne riez pas, parce que je vous assure, c'est pas marrant. Je le lis pour vous montrer un petit peu, parce que nous on passe certaines choses. Mais il ne faut pas oublier que les gens vivent là-dedans. Il est allé, bien sûr, il s'est réveillé le matin, il a couché avec elle, bien sûr. Quand il s'est réveillé le matin, il a remarqué qu'elle n'était plus là. Il est allé dans la salle de bain, il a trouvé écrit sur le miroir, « Bienvenue dans le monde du sida ». Voilà un fait divers. Qu'est-ce que cet homme a dû penser, a dû ressentir, j'en sais rien, de contracter cette maladie. Un autre exemple, en Australie, un homme est venu braquer une banque, il n'avait pas une arme à feu, mais il avait une seringue remplie de salive avec le sida à l'intérieur. Il a ordonné qu'on ouvre les caisses et qu'on lui donne de l'argent, sinon il allait piquer les caissières. Il a ramassé le magot, les gens ont peur, etc., etc. Et nous sommes dans cette société et nous ne nous rendons pas compte à quel point les gens ont peur, les gens vivent de véritables drames. Certains prennent ça d'une manière assez fataliste en disant « c'est pas bien grave, de toute façon il faut mourir un jour ou un autre », ce que parfois on me le dit. Mais moi je crois que les gens sont fous. Nous venons de le lire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit, fou, dans le sens où il faut être fou de ne pas s'occuper de son éternité, il faut être fou pour se permettre d'être aspiré par cette mentalité. Et combien même de parents chrétiens, ils ne le sont peut-être que de nom, mais enfin, leurs enfants sont énormément influencés par ce qu'ils peuvent entendre d'eux. Quand vous voyez un père ou une mère chrétienne qui dit à sa fille, écoute, il te faut prendre la pilule parce qu'on ne sait pas, tu comprends, il te faut te protéger. Mais protégés de quoi? Vous croyez que les gens ils sont protégés du péché? Et de la culpabilité? Peut-être protégés de certaines choses, d'accord? Et j'entends et je remarque parfois des choses qui me font hérisser. Mais le fait, il est que dans le royaume de Dieu, énormément de gens n'ont que l'apparence de la piété. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous amener à persévérer dans une véritable piété. En tous les cas, moi, vous savez, hier, je méditais un verset qui je ne suis pas sûr, je le vis entièrement, quand Paul disait à l'Église, je suis pur du sang de vous tous en vous annonçant tout le conseil de Dieu. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais qu'il en soit ainsi quand je terminerai mon ministère. La maladie, quand on voit le sida, rien que le sida, parce qu'on commence à en reparler, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de recommencer à en parler, eh bien, je peux vous dire que ça coûte des milliards à la société. On fait des raisonnements, c'est parfois pour certaines choses que les hommes revendiquent, mais si vous savez, le péché, moi je le crois, ça coûte cher. Et nous sommes là dans un monde, je parle du sida, j'aurais pu parler d'autre chose. L'autre fois, je regardais une émission, j'ai regardé que le début parce que je ne pouvais pas la regarder. C'était impossible pour quelqu'un qui veut se sanctifier de regarder. Il commençait à faire une émission sur le tourisme sexuel. Il y a 20 ans de ça, on n'aurait même pas imaginé un truc comme ça. Mais enfin, écoutez-moi, frères et sœurs, nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Et moi, ce que je sais quand même, c'est que Dieu veut agir. Il veut agir dans les cœurs. Il veut bâtir son Église. Et il l'a bâtie. Parce que dans le ciel, il y aura une grande foule d'hommes et de femmes qui se seront préservés du péché, qui auront cherché Dieu, qui auront cherché une vraie piété. La Bible dit « recherche la piété ». Et peut-être que ce matin, au travers de ce message, plusieurs vont embrayer et dire « Seigneur, moi, je veux te chercher ». Parce que l'obéissance, ça ne tombe pas sur les gens qui sont plus sympas que les autres ou plus disposés. L'obéissance, c'est un choix. Je choisis d'obéir à Dieu parce que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Et moi, je crois que l'Esprit de Dieu veut se manifester dans l'Église. Et si l'homme, si le cœur n'est pas changé, parce que loin de moi la pensée de jeter la pierre à qui que ce soit, mais vous savez très bien que la Bible dit que si un cœur n'est pas changé, l'homme, il reste le même. Et le mal, il est là et il sévit partout. Les drogues, on est en train, se circulent, mais bientôt, on est en train de voter des lois, vous le savez, pour banaliser, officialiser la drogue. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pour banaliser la drogue, il faut quand même avouer que nous sommes arrivés à un stade. Donc c'est quand même, peut-être, vraiment les prémices de la colère de Dieu qui sont plus que jamais là en train de se manifester. Quand on voit la tournure que prend certaines choses, et je le répète, moi je ne m'informe pas de ces choses. Je ne peux même pas regarder ces choses-là. Il y a des débats, des fois on a l'impression que ça va être intéressant, puis au bout de 5 minutes, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas regarder ces choses. C'est impossible, c'est complètement pervers. On entend parler de choses comme le sadomasochisme, etc., etc., etc. Le néo-nazisme, des trucs comme ça, il y en a sur Toulouse. Et nous sommes loin certainement de savoir tout ce qui se passe. Des gens qui sacrifient à Satan des êtres humains. Nous sommes loin de nous imaginer tout ce qui se passe. Tant mieux, merci Seigneur de nous préserver. Je pense que ce n'est même pas la peine de le savoir. La Bible dit de toute façon de fuir le mal, ce n'est pas la peine de faire des études là-dessus. Mais je pense que parfois Dieu permet que nous sachions certaines choses, peut-être pour prier et supplier Dieu pour que nos enfants soient épargnés et surtout pour que nous ayons l'intelligence d'enseigner nos enfants dans les voies de Dieu et de ne pas nous permettre de devenir fatalistes. Un chrétien, ce n'est pas un fataliste. Un chrétien, c'est quelqu'un de responsable qui cherche le conseil de Dieu dans la parole de Dieu et qui est sérieux et qui l'inculque dans le sens le plus noble du mot, pas pour abrutir son enfant, mais pour le préserver de tout mal. Et il est clair que ce que nous voyons, et je répète, le peu que nous sommes peut-être amenés à voir, nous prouve que les prémices de la colère de Dieu sont en train de venir sur la terre. Bien sûr, c'est clair, nous sommes en train de récolter ce que le monde a semé, le salaire du péché, vous le savez, c'est la mort. Je me souviens, j'étais tout petit, 10 ans, en 68, quand j'avais entendu, il est interdit d'interdire. Moi, à 10 ans, j'avais posé quelques questions, on ne m'y avait pas répondu d'ailleurs, mais enfin, vous savez ce qui s'est passé, c'est pas vieux 68. Et quand vous voyez que la société qui était appelée en France, la société judéo-chrétienne, parce que les lois reposaient sur la parole de Dieu, est devenue la société permissive. Notre pays n'est plus une société judéo-chrétienne. Notre pays est une société permissive. On permet tout. C'est révélateur de la folie dans laquelle le monde se trouve. Soyons libres, si je suis libre et si je fais ce que je veux, donc par projection, je vais être complètement heureux, interdit d'interdire, les gens sont fatigués de Dieu, les gens sont fatigués des tabous, de la religion, libérons-nous, faisons ce qui nous plaît, buvons, mangeons, couchons, découchons, etc., etc. Un jour nous mourrons, mais n'oublions pas, et s'il y avait quelqu'un qui était en train d'adhérer à ce que je viens de dire, n'oubliez pas, que ça c'est ce que vous pensez, mais que Dieu qui nous a créés, à chacun, Dieu a créé des lois. Ces lois, elles ont même été écrites par le doigt de Dieu lui-même sur le mont Sinaï. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui-même a écrit les tables de la loi avec des commandements qui n'étaient pas pour les juifs ou pour la génération de l'époque, elles étaient pour l'histoire du monde en entier. Ces lois, elles sont là dans les saintes écritures. Et ce que nous sommes en train de voir, il ne faut pas s'affoler. Une prophétie nous a rappelé ce matin que nous ne devons pas nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais nous redresser, parce que ces choses doivent arriver, parce que les gens n'ont pas voulu connaître Dieu. On en est là, et nous savons que la colère de Dieu va venir. Mais si vous n'êtes pas prêt, y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'est pas prêt à rencontrer Dieu? Quelqu'un qui vit dans son péché, quelqu'un qui vit dans sa liberté? Et surtout que même aujourd'hui, le mouvement religieux en France, dans toutes les dénominations, est en train de basculer dans des abominations incroyables. Il y a des mouvements religieux où on est en train de voter des lois pour permettre aux pasteurs homosexuels de prêcher l'évangile. Mais nous ne nous rendons pas compte, et tout ça c'est accepté, tout simplement, parce qu'il n'y a que l'apparence de la piété. C'est clair que dans une société gay, c'est certes, ça fait plaisir d'essayer de s'accommoder à la tendance. Mais, mes frères et sœurs, que Dieu nous garde, mes frères et sœurs. Que Dieu nous garde d'avoir toujours le souci de se préparer à rencontrer Dieu. Et c'est vrai que cette prédication, j'avais pas envie de la faire. Vous savez pas ce que c'est, il n'y a que M. Lafayette ou les frères anciens qui ont prêché. Il y a des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder, mais ça fait quand même un an que le Seigneur me demande de la préparer. Alors il faudrait bien que j'arrive à la faire. Il y a des choses qui ne sont pas difficiles à aborder. C'est pas facile, des fois, d'aborder certaines choses, parce qu'il faut être très sérieux, en même temps rempli d'amour et de sévérité. C'est pas toujours facile. Parler de la sexualité, c'est quelque chose qui est peut-être pas facile à aborder. Et pourtant, la Bible en parle. Il y a 30 ans de ça, tout le monde était embarrassé. Maintenant, les gens ne sont pas embarrassés, tout le monde en parle, la télé, les médias, tout ce qu'on veut. Et la Bible parle de certaines choses, et moi j'aimerais vous en parler un petit peu ce matin. Vous savez, je lisais hier ces textes où Jérémie a parlé. Regardez ce qu'il disait. « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » Même quand ils disent « Dieu est vivant », c'est d'une manière fausse. « Seigneur, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ? » ?»« Seigneur, tu les consumes, tu les frappes. » Ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent le visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir, de se tourner vers toi. Il dit encore « Ce sont juste que les petits, les jeunes, ils agissent en fous parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Alors j'irai vers les anciens et je leur parlerai car reconnaissent, parce qu'eux ils connaissent. » Et Jérémie ajoute, « Ils ont tous rompu le joug pour être libres. C'est pour cela que le lion de la forêt les tue. » Voilà ce que Jérémie a dit. Et c'est vrai que le lion, qui est le diable, vous le savez, est en train de détruire dans nos foyers. Et pourquoi ? Parce que nous n'avons pas voulu recevoir les instructions lorsque Dieu nous parlait de sainteté, de consécration, de repentance. C'est vrai que nos enfants peuvent, même si on les a éduqués dans les voies de Dieu, ils peuvent choisir. Moi, le pasteur qui m'a formé, il avait deux fils, c'était vraiment deux têtes de mule, vraiment. Et je lui ai dit un jour, mais quand même, comment ça se fait ? Il me dit, sa femme avait pris la parole, elle m'a dit, tu sais Gérard, nous on leur a enseigné le bien toute notre vie et ils ont choisi le mal. Mais c'est vrai que les enfants de Samuel étaient corrompus, les enfants de Élie étaient pervertis. Et c'est vrai que chacun est libre de choisir la voie qu'il veut suivre. Mais il n'empêche que nous devons avoir quand même le devoir d'enseigner la vérité. Moi, je ne peux pas vous imposer quoi que ce soit ce matin, mais je dois faire ce que le Seigneur me demande, apporter peut-être des conseils qui vont permettre à certains de revenir sur leur nonchalance, sur leur superficialité, et revenir vraiment aux choses de Dieu. Qui doit le faire ? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit parler de ces choses ? Est-ce que c'est les politiciens ? Est-ce que ce ne sont pas les prédicateurs ? Est-ce que vous êtes d'accord que les prédicateurs dans les églises parlent de ces choses ? Est-ce que ce n'est pas mon rôle à moi ? Parfois, on me dit, mais monsieur, pourquoi vous prêchez sur ceci ou sur cela ? Je dis, si je ne le fais pas moi, si les pasteurs ne le font pas, je ne pense pas que c'est le garagiste du coin qui le fera le lendemain. Non, mais on en arrive à un stade où quand on prêche des choses qui doivent être prêchées, les gens disent, mais pourquoi vous prêchez là-dessus ? Parce qu'il faut le faire. Parce que Dieu qui nous aime a toujours averti son peuple. La Bible termine d'ailleurs dans les épîtres de Jean et de Pierre, je vous donne des avertissements. Prenez au sérieux les avertissements. Mais c'est clair que quand on est sérieux et quand on veut se préparer à rencontrer Dieu, eh bien nous savons que Dieu nous avertit, Dieu déclare ces choses. Mes enfants m'ont abandonné, dira-t-il. Leurs transgressions sont nombreuses. Ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Ils font des serments et ils se livrent à l'adultère. Ils vont en foule dans la maison de la prostituée. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Il y avait M. Wilkerson, un séminaire, qui disait qu'il y avait des dizaines de milliers de sites pornographiques aux États-Unis. Mais on ne peut pas se l'imaginer. Et je me demande comment ça doit être dans notre pays. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point ce venin est en train de détruire notre société. On le voit rien que par les affiches publicitaires dans la ville, ça devient grave. Hein? Mais ça nous prouve vraiment que ces choses de plus en plus abominables sont là parce que l'homme ne veut pas de Dieu. Et Dieu dit qu'il va agir, il le dit. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de mon peuple, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils violent le droit des malheureux, le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Lorsque nous étions en Polynésie, nous avons vu des dizaines de familles où il y avait l'inceste. Et c'était accepté, mais vraiment avec une simplicité incroyable. Nos écoles sont en train de devenir des lieux de prostitution. Nos enfants, nos filles vont dans des écoles avec leur petit cartable et dans la poche la petite pilule. Et nous ne nous rendons pas compte combien nous sommes en train d'être envahis par certaines choses. Et je pense que l'Église doit plus que jamais supplier Dieu de voir ce peuple, l'Église, se réveiller et combattre le bon combat de la foi. Et Dieu tient compte de tout cela. Vous ne croyez pas que Dieu passe... Dieu regarde toutes choses. Et pourtant, la Bible n'enseigne pas que le sexe, la sexualité, est un péché. Et c'est quand même important, parce que je suis en train de me rendre compte que beaucoup de chrétiens ont eu un enseignement qui n'était pas correct. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir un jour, et qui me dit, « Monsieur Go, moi je suis une sainte femme. » Elle me dit, « Mais c'est bien, vous avez accepté Jésus-Christ, c'est bien. » Elle me dit, « Mais non, mais je suis vraiment très sainte. »« Ah bon ?» Je dis, « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Elle me dit, « Moi, je n'ai pas eu de relation avec mon mari. » « Ah bon ?» Eh bien ouais, parce que je voulais rester sainte. Ah bon? Et j'ai dit, votre mari, il restait avec vous? Non? J'ai pas compris. Eh bien, moi aussi, je comprends. Alors, ça vous fait rire, je savais que ça vous ferait rire. Je le savais, je l'ai mal dit peut-être. Mais j'ai dit, ma soeur. Et on lui avait enseigné ça. Elle venait juste de se convertir, elle s'était mariée avec un colonel en plus. Et cet homme lui a dit, non mais. Il est resté quelques jours, il a attendu quelques semaines, et il l'a quitté. Et elle est restée comme ça toute sa vie parce qu'on lui avait dit que la sainteté, c'était de ne pas avoir de relations sexuelles. Alors c'est vrai, ça fait peut-être rire, mais enfin, bon gamin. Moi, ça m'a sous le coup, je me suis dit, mais... Et elle pensait qu'elle, elle était là, elle était sur sa canne appuyée, elle était heureuse de plaire à Dieu par cette façon de se comporter. Alors il y a plusieurs histoires, même dans le Nouveau Testament, qui nous parlent justement, qui ont trait au péché sexuel. Bon. Dans Jean-Baptiste, d'ailleurs lui, le pauvre, il y a laissé la tête pour vous dire qu'aujourd'hui, remarquez, si aujourd'hui on pouvait, il y a des pasteurs qui, je pense, la perdraient la tête. Vous savez qu'un jour, Jean-Baptiste a repris un homme qui vivait avec une femme avec laquelle il n'était pas marié. C'était Hérode. Et il lui a dit, écoute Hérode, ce que tu fais, c'est pas bien, tu n'as pas le droit de vivre avec cette femme-là. Et cette femme, qui était vraiment perverse, a attendu l'occasion favorable pour manigasser un plan où elle a pu, justement, faire couper la tête à Jean-Baptiste. Cette histoire, elle est quand même bizarre. En plus, Jean-Baptiste, je ne sais pas si on est compte. Cette femme, le péché qu'elle a sur la conscience, qu'elle a eu. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait. Bien sûr qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, vous lui diriez, bon, je ne sais pas, il faut savoir le dire, puis ce n'est pas n'importe qui peut-être qui doit le faire. Mais vous allez voir quelqu'un, écoutez, vous n'êtes pas marié, etc. Vous savez, il faut quand même le dire. Gentiment, on n'a pas, il ne faut pas agresser les gens, il faut les aider dans leur processus et dans leur cheminement. Mais on vous dirait, mais de quoi je me mêle? Bon, on me l'a déjà dit, mais de quoi je me mêle? Puis, écoutez, c'est votre problème. Mais Jean-Baptiste, pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'il aimait, je suis sûr qu'il aimait cet homme. Quand vous aimez les gens, vous leur dites avec doigté, avec sérieux, avec intelligence, vous êtes toujours amené à leur dire la vérité. En tous les cas, il est clair que ça nous montre vraiment jusqu'où ces problèmes peuvent aller et la méchanceté qu'il peut y avoir dans le cœur d'un homme lorsqu'il n'accepte pas la vérité en fond d'une femme, c'est pareil. Un jour, Jésus a rencontré une femme sur le bord d'un puits, vous savez. Cette femme, elle avait eu ses maris et celui avec qui elle était... Quand Jésus l'a rencontré, n'était pas son mari. Et Jésus lui a dit, l'homme avec qui tu es, avec lequel tu vis, n'est pas ton mari. Il n'y a pas dit, écoute, bon, c'est pas grave, Dieu te connaît, Dieu est amour, parce que c'est ça qu'on entend aujourd'hui. Et ça, moi, je l'ai vu. Il y a certaines églises où on donne la Sainte Cène aux gens qui vivent dans le concubinage. Je vous le dis, je l'ai vu, je l'ai entendu à la télé. C'est pas dans un grand débat sur la tolérance. Et on l'a vu dans la fin des temps, on l'a vu. Dans la fin des temps, les faux docteurs enseigneront qu'ils prescriront de ne pas se marier. Le problème, c'est que Jésus dit que c'est des doctrines de démons. Ça peut quand même nous faire réfléchir. Peut-être que ce matin, quelqu'un est concerné et je voudrais que vous le preniez avec beaucoup d'amour et beaucoup de sérieux parce qu'il y va de votre éternité, il y va de votre salut et que vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à vivre dans le péché. Parce que si Dieu permet que nous partagions ces choses ce matin, c'est parce que Dieu savait que vous seriez là, que Dieu vous aime et qu'il ne veut pas que vous vous perdiez. Croyez-moi, mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit à la Samaritaine, écoute, bon, du moment que tu es fidèle à cet homme, non, non. Et c'est vrai que le concubinage, c'est quelque chose qui est là, qui aujourd'hui, qui est accepté, qui est toléré. C'est un enseignement de fausse doctrine. Et c'est ma responsabilité. Et quand je méditais ce verset hier, je suis pur du sang de vous tous, je pensais à la passion. C'est vrai que nous, les prédicateurs, il faut quand même que nous mettions aussi, nous recevions du Saint-Esprit la grâce pour pouvoir le dire. Mais moi, je vous le dis de la part de Dieu, si vous êtes dans le concubinage, si vous aimez Dieu, réglez votre situation. Depuis que je suis ici, il y a au moins une dizaine de personnes qui sont arrivées, une dizaine de couples, qui vivaient dans le concubinage et qui ont été saisies par l'Esprit de Dieu, qui ont obéi, qui l'ont fait, que le nom du Seigneur soit béni. Et lorsque Jésus va dire à cette femme, celui avec qui tu es n'est pas ton mari, elle va répondre, mais tu es prophète, et de suite elle va changer de conversation, elle va lui parler de la façon dont on adore, elle adore ici, lui il adore là-bas. Et vous voyez, elle a voulu couvrir. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'on veut couvrir notre désobéissance avec une couverture religieuse. C'est ce qu'elle a fait. Vous lirez la Samaritaine, vous verrez comment elle a réagi. Mais si sa réaction a été religieuse, ce qui n'est pas la bonne solution, bien sûr, parce qu'elle fuit la spiritualité, Jésus lui a demandé de régler sa vie. Elle s'est humiliée, elle a fait, elle a été sauvée, elle s'est repentie. Vous connaissez la suite. Elle a été changée, elle a été dans le village, etc. Elle dit, voilà celui qui a changé ma vie, elle voulait le suivre, etc. Le Seigneur a su parler à cette femme. Il ne l'a pas ignorée. Il l'a été à ce rendez-vous. Et il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin d'un rendez-vous pour savoir que vous devez faire gaffe et ne pas essayer de couvrir votre péché avec une couverture religieuse, avec des vents de doctrine qui adhère à votre mentalité actuelle. Vous ne devez pas faire ça. Beaucoup de gens le font. On dit, mais non, écoutez, aujourd'hui, il y a des églises, c'est comme ci, comme ça. Il y a des églises. Oui, il y a des églises qui font ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Voilà. Quelle que soit la dénomination. En tous les cas, cette femme, eh bien, elle a réagi intellectuellement. Elle n'a pas continué à se couvrir. Lorsque cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, vous le connaissez, ils l'ont amené à Jésus, ils l'ont amené vers Jésus. C'était peut-être pas pour la femme adultère, mais c'était parce qu'ils avaient l'intention de piéger Jésus, vous le savez. Et ils vont se glousser en disant, Moïse a dit, lapidez de telle femme. Et toi, que dis-tu? Il disait cela, dit le texte, pour l'éprouver. Je ne sais pas où était l'homme quand ils ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère, mais enfin, c'est parce que l'homme aussi devait être lapidé. Enfin. Et dans notre société, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pensais à un truc hier. Parce que dans notre société, j'ai remarqué qu'on blâme souvent plus la femme que l'homme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça, c'est incroyable. Enfin, vous savez, les hommes qui paient les prostituées, ils sont aussi condamnables que les prostituées elles-mêmes. Il ne faut quand même pas rigoler. Et on voit quand même que c'est facile de protéger certains. Et ceux qui vendent les poubelles de la pornographie, vous ne croyez pas qu'ils rendent, ils ont des comptes à rendre à Dieu aussi, etc., etc. Je n'ai même pas la peine de dire tout ce que j'ai noté, ça ne sert à rien. En tous les cas, ils seront jugés pareillement. Ce jour-là, les pharisiens, qui étaient très, très, très religieux, pensaient éprouver Jésus. Ils voulaient le piéger. Parce que si Jésus avait dit « lapidez-la », Jésus aurait été en désaccord avec la loi de Rome. Parce que personne n'avait quand même le droit de lapider sans l'accord des Romains. Et s'il disait « ne la lapidez pas », il était en désaccord avec la loi mosaïque, la loi juive, qui disait qu'il fallait lapider de telle femme. Alors qu'ils disent lapidez-la ou ne la lapidez pas, il était pris en, lui aussi, flagrant de désobéissance. Et vous connaissez la réaction que le Seigneur Jésus a eue dans cette épreuve, hein? Quelle grâce. Il s'est baissé d'abord. Vous savez qu'il nous a dit dans la Bible qu'il s'est baissé et qu'il a écrit par terre. Et je pense toujours à ce texte de Jérémie, je ne le cherchais pas, je l'ai, où il est dit, que, attendez, je vais vous le lire, c'est quand même bien. Jérémie 17. Quand il est dit, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Et on voit bien que c'est facile de faire des raisonnements avec notre doctrine, c'est facile. En tous les cas, une chose est sûre, Jésus s'est abaissé et il a écrit, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Moi, je préfère que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, croyez-moi, que d'avoir mon nom inscrit sur la terre, parce que la religion pour moi, c'est qu'une couverture, c'est pas tellement sérieux. En tous les cas, Jésus a fait, vous savez ce qu'il a fait, comme il a voulu aider cette femme en disant que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est vrai que la Bible nous dit certaines choses. Quand la Bible dit, par exemple, réjouis-toi pendant ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, et en fin de compte, fais ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, c'est pour ça que je voulais faire ce petit partage avec vous ce matin. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi Dieu alors a-t-il créé la sexualité? C'est une bonne question. Vous savez, des fois, je vous pose des questions, elles ne sont pas toutes bonnes. Mais cela, j'aime bien. Quand on voit le trouble que ça cause, même quand on voit tous les chrétiens qui sont frustrés par rapport à cet aspect-là. Moi, je crois que Dieu a créé la sexualité pour créer du bonheur et de la joie. Très sincèrement. Il n'y a rien de mauvais dans le corps, puisque la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Pourquoi Dieu a-t-il créé la sexualité, les sexes différents, etc. Eh bien, moi, je pense que Dieu, qui est parfait, savait exactement comment également procurer du plaisir à l'homme et à la femme. Et pour moi, je crois que c'est beau quand un jeune homme est attiré vers une jeune fille. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal qu'un jeune célibataire soit attiré par une jeune fille? Est-ce que c'est normal? Joël, répondez. Pour... Allez, allez, répondez, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Hein hein qu'une jeune fille soit attirée par un jeune homme. Vous comprenez? C'est la vérité. C'est tout à fait normal. Un jour, j'étais dans un camp d'adolescents et il y avait un animateur qui regardait des garçons, il regardait les filles. Vous savez, il les regardait. Il n'y a certainement pas de mal à regarder une fille. Et il s'est tourné vers elle et dit « Hé, le pêcheur! Tu ne convoiteras pas !» J'ai dit « Attends, tu vois. » Moi, je crois que c'est tout à fait normal qu'un jeune homme soit attiré par une jeune fille et vice-versa. Ce n'est pas un péché de désirer. La Bible dit « Tu ne convoiteras pas. » Convoiter, c'est vouloir ce que l'autre a. On peut avoir envie d'avoir la même voiture, ce n'est pas un péché. Ça ne tient pas à grand-chose, mais c'est l'état de cœur qui change. L'un de l'autre. Et nous voyons qu'il y a tout un enseignement, bien sûr, équilibré, parce que c'est une façon pour un couple eh bien, d'exprimer leur unité. Dieu l'a dit cinq fois dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Et quand, moi je crois que quand dans un couple, il y a vraiment cet amour exprimé par de vraies relations sexuelles saines et belles, moi je crois que c'est une façon d'unir un couple de telle sorte que personne ne pourra venir. Moi, je le crois vraiment, que c'est une façon de renforcer l'amour pour rendre un couple encore plus fort. Vous ne croyez pas que Dieu l'a voulu ainsi? Moi, je crois que ce sont des choses qui doivent être dites. Aujourd'hui, les gens ont peur, les gens ne comprennent rien, les gens sont frustrés, les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. Mais moi, je crois que dans un couple, quand il y a un amour vraiment profond, eh bien, qui pourra venir séparer ce couple? Parce que des fois, il y a des couples qui se séparent, mais bien sûr, on comprend. La Bible, le Seigneur l'a dit, on l'a lu, que le mariage soit honoré de tous. Il n'a pas dit que le concubinage soit honoré de tous. Hein? Je ne ris pas. Notre génération honore le concubinage ou le pax. Mais Dieu est contre ces choses. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et aujourd'hui, on est en train de tout tolérer. Parce qu'on se dit, écoutez, mais si on ne les garde pas, il n'y aura plus personne dans l'église et tout. Ben oui, ben, il vaut mieux qu'il n'y ait personne que des gens qui sont en train de propager les doctrines de démons, croyez-moi. Moi, je crois que c'est une bénédiction, le couple. Et j'encourage tous ceux qui ne sont pas mariés à prier dans ce sens, à dire au Seigneur, donne-moi la femme que tu veux que j'ai, parce qu'on est, c'est bien, c'est la volonté du Seigneur. J'espère que vous priez pour ça. Est-ce que les jeunes, vous priez pour ça? Et les moins jeunes aussi? Vous avez raison. Que Dieu nous aide. Il n'y a rien de mauvais dans la sexualité quand nous gardons la norme de Dieu, je le dis parce que la Bible le dit. Dieu a dit certaines choses par rapport à la sexualité, comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Mais quelqu'un me disait, quelqu'un me disait dernièrement, je vous le dis parce que c'est quand même sérieux, une dame est venue me trouver, elle était soucieuse, elle me dit, mais moi, je ne suis pas mariée, donc, si j'ai des relations sexuelles, je ne commets pas l'adultère. J'ai dit, eh oui. L'adultère, c'est tromper son mari. Et moi, je ne suis pas marié. Et voilà. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte un peu. Et je lui ai dit, vous savez ce que c'est la fornication? C'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Et si vous lisez la Bible, il est dit que les adultères et les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors c'est sûr que ce discours, il plaît peut-être pas à tout le monde. Et je suis sûr que je serais dans des églises, on se moquerait de moi. Mais ça, ce n'est pas mon problème à moi. Je préfère pas avoir de problème avec Dieu. Et il y a peut-être quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que j'ai à cœur de partager ces choses, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a couvert son péché avec une espèce de vernis religieux en pensant que ce n'est pas grave, la loi tolère. Parce que voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui la loi tolère certaines choses, alors on est en accord avec la loi. Mais si la loi des hommes est en désaccord avec la volonté de Dieu, il faut quand même être sérieux. Et ne pas s'y soumettre. En tous les cas, la Bible dit qu'aucun adultère n'ira au ciel. Nous ne devons pas nous moquer des lois de Dieu. Dieu nous avertit parce qu'il nous aime. Il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Notre Dieu dit ceci. Dans Ézéchiel, il dit ceci. Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu attend une repentance. Dieu fait des promesses extraordinaires dans la parole de Dieu. Elles sont pour chacun de vous, ces promesses. Puis il ajoute dans Ézéchiel, je répandrai, écoutez bien, Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Et je mettrai mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et je vous délivrerai. On voit bien dans la parole de Dieu que ce que Dieu veut, c'est nous bénir. Mais le problème, il est là aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas prêché la repentance. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une certaine dénomination en France qui est en train de voter une loi dans les statuts de leur confession pour accepter les pasteurs homosexuels. C'est parce que ça fait certainement 10, 20 ans que dans cette dénomination-là, personne n'est converti. C'est pas possible. Enfin, je ne sais pas comment vous l'entendez. Que Dieu me garde d'exagérer. Mais est-ce que vous comprenez? C'est que ça va mal depuis très, très, très longtemps. Et le problème, c'est la repentance. Et tant que les gens ne sont pas passés par une vraie repentance, eh bien, ils ne comprennent pas ces choses. Mais une fois que vous êtes passé par la croix et par une profonde repentance, Dieu vous donne un cœur nouveau. C'est pour ça que le mot amour, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Alors que Dieu veut répandre son amour dans notre cœur. Quand il y a l'amour de Dieu dans un cœur, eh bien, il y a la grâce de Dieu. Et il y a la possibilité d'obéir. On n'est pas là des mendiants en train de vouloir être aimé. Dieu répand son amour dans notre cœur et il nous donne le pouvoir d'aimer les autres. Tu aimeras ton prochain. Parce que c'est un véritable calvaire, excusez-moi l'expression. Mais de ne pas recevoir l'amour de Dieu et d'essayer d'aimer son prochain. Mais quand vous recevez l'amour de Dieu dans votre cœur, eh bien, des fleuves d'eau vive vous coulent, vous aimez. Si Dieu vous donne, vous pouvez donner. Si Dieu ne vous donne pas, vous allez vite être épuisé. Moi, je crois que Dieu veut répandre son amour. Et que Dieu nous donne la grâce de nous abstenir, comme dit l'apôtre Pierre, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pourquoi il y a tant de gens qui sont malheureux? Parce qu'ils sont en guerre à l'intérieur. Ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas affaire à un petit Jésus. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant. Et on l'a chanté tout à l'heure, c'est un Dieu de victoire. Il a promis la nouvelle naissance. Et peut-être que certains ont besoin ce matin de revenir à Dieu de tout leur cœur et de dire, Seigneur, je veux cette nouvelle naissance. Je veux une nouvelle naissance. Je veux une nouvelle vie, une nouvelle nature. Dieu vous aidera. On vient de le lire, je vous purifierai, je vous pardonnerai, je vous donnerai un cœur nouveau. Peut-être que vous n'êtes jamais passé par la repentance. Vous le savez que ça fait des années, je le répète, que je suis amené à dire à des chrétiens, mais convertissez-vous vraiment. Lorsqu'un homme se convertit, il reçoit une nouvelle nature et il reçoit la grâce d'obéir. Il est pardonné, il est justifié. Nous l'avons entendu tout à l'heure par le pasteur Lafayette. Nous pouvons entrer dans sa présence. Nous sommes justifiés, nous sommes enfants de Dieu. Et pas pour des broutilles, pour l'éternité. Héritiers du ciel. À ceux qui reçoivent ces choses, à ceux qui se soucient de connaître Dieu, on l'a lu dans Romains, eh bien Dieu leur réserve la gloire, l'honneur et l'immortalité. Et à ceux qui ne se soucient pas, qui se contentent d'un petit vernis religieux, moi j'ai ma religion, la femme la samaritaine, elle aussi, elle a essayé de dire, mais c'est nous, on adore comme ça. Bon, d'accord, je suis pas marié, mais moi j'ai quand même ma religion. Mais ouais, bon, écoutez, vous pouvez même être pentecôtiste, c'est pas le pentecôtisme qui vous sauvera. C'est la repentance et la sanctification. Et on est là aujourd'hui, on se débat, il y a une espèce de mélasse spirituelle et il faut que les chrétiens cherchent Dieu, se soucient de le connaître. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Heureux, dit la Bible, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et s'il y avait quelqu'un ce matin qui n'a pas encore été purifié, eh bien donnez-lui votre cœur. Nous sommes là sous le regard de Dieu, nous sommes là, nous avons pris la Sainte Cène, nous avons chanté, nous avons apporté des offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tout ça c'est bien, mais à quoi ça servirait que j'apporte mes offrandes à Dieu tout en restant dans mon péché, tout en ne passant pas par la repentance? Si je vous ai dit ces choses, peut-être que je vous les ai mal dites, vous avouez que ce n'est pas un sujet facile quand même à présenter, mais je pense qu'il faut quand même en parler, je pense que c'est important qu'on le partage. Il n'y a rien de mal dans la vie du couple, c'est extraordinaire, et franchement que chacun puisse s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Mais mes frères et sœurs, n'essayez pas de vous débattre en restant dans la désobéissance. Obéissez au Seigneur. Et si vous êtes là dans votre péché, dites ce matin, au Seigneur, ça prendra pas des mois. Si Dieu vous demande de vous repentir, il va vous aider à vous repentir. Vous le croyez pas? Dieu est un Dieu qui nous aime. Oui, fuyons les passions de la jeunesse. Nous sommes dans un temps complètement pervers et corrompu, mais la Bible dit que Dieu garde les fidèles.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.